Au bout de l'actu. Alpe 1. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et avec notre invité ce soir, donc sur Alpe 1, Karine Berger, ex-députée PS des Hautes-Alpes et aujourd'hui conseillère municipale d'opposition de Gap.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être à nos côtés ce soir, après un moment de silence, après une défaite difficile à encaisser d'ailleurs, cette défaite lors de ces élections législatives. Vous êtes représentée pour un second mandat, vous n'avez pas été élue, vous avez été mis de côté par les électeurs dès le premier tour. Comment vous avez vécu cet instant politique ?
Ah, vous savez, quand on est engagé politiquement, il faut savoir perdre, tout simplement. Il faut savoir reconnaître les mécanismes démocratiques. Donc, pour être honnête, c'est pas forcément à titre personnel que les choses sont les plus dures. C'est pour l'ensemble de l'équipe qui m'a accompagnée. Il y a plus de 30 personnes qui se sont mobilisées dans toute la circonscription pendant un mois et demi de très très fort pendant les législatives. Et c'est toujours pour les équipes que c'est le plus difficile à vivre parce qu'il faut à la fois encaisser la défaite, mais surtout penser à tous ceux qui sont déçus parce que ce que vous portiez à leur place n'est pas là.
Vous la sentiez venir, cette défaite ?
Je vais pas vous mentir, le score de Benoît Hamon à l'élection présidentielle sur la circonscription qui était inférieur à 6% rendait les choses pour les socialistes très difficiles. La campagne législative ne s'est pas humainement mal passée, mais puisque beaucoup de gens me disaient qu'ils avaient beaucoup de sympathie voire de respect pour ce que j'avais fait. J'étais très frappée, notamment j'ai entendu énormément de gens me parler de ce que j'avais fait pour le département pendant 5 ans, ce qui fait quand même toujours plaisir. Mais en revanche, le message politique des personnes qu'on rencontre était très clair. Il voulait donner, si pas les pleins pouvoirs, du moins une liberté d'action quasi totale au président Macron. Et c'était ça qu'on entendait le plus. Et c'est pour ça qu'on était très prêts à affronter la défaite.
Vous n'êtes pas tombé de l'armoire, quoi, finalement.
Non, pas du tout. Non, ça tombe bien, d'ailleurs.
Pierre-Bernard Raymond, l'ancien sénateur des Hautes-Alpes, disait hier sur Alpe 1 que vous avez été victime de cette vague Macron dont vous parlez, mais aussi victime d'un autre fait. Et là, je le cite, de n'avoir porté aucun projet pour le département. Je vous propose de l'écouter.
Je crois aussi, il faut le dire, que c'est une femme qui a réussi à Paris, qui a réussi à BFM TV, etc. Mais je vois pas tellement quel sujet, quel projet important elle a conduit dans les Hautes-Alpes.
Vous serez heureuse de savoir que vous avez le diplôme BFM TV, ça c'est une chose.
Pas tant que ça d'ailleurs.
En revanche tout de même, rétrospectivement parlant, est-ce que vous faites cette autocritique aujourd'hui ?
Ah, écoutez non. Alors,
vous avez souvent entendu, pendant le quinquennat.
Mais justement, j'ai suffisamment entendu pour m'être posé la question, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était très frappant le nombre de personnes qui, dans le département, me remerciaient de ce que j'avais fait pour le département. C'était pas ce que j'avais fait au niveau national, qui d'ailleurs était de toute évidence totalement ignoré, mais c'était vraiment ce que j'avais fait pour le département. Et le bilan qu'on a présenté, qui était un bilan très important, en tout cas déjà en nombre d'actions, a vraiment été reconnu. Donc ça, sur ce point-là, j'ai beaucoup de respect pour Pierre-Bernard Raymond, mais je pense qu'il commet une erreur d'appréciation sur ce jugement.
Vous en voulez du coup aux électeurs qui n'ont pas pris en compte ce travail effectué ?
Absolument pas, parce que les électeurs en démocratie répondent à la question qu'on leur pose. Les élections législatives sont des élections pour la représentation nationale. Ils reconnaissent que j'ai fait beaucoup de choses pendant 5 ans pour le département, mais ils savent que c'est une majorité politique pour le président qu'ils souhaitent. Et donc cette contradiction, si vous me permettez l'expression, est assumée très citoyennement par eux, et ils préfèrent la carte politique nationale, ce qui est non seulement démocratiquement tout à fait légitime, mais en plus assez logique en fait.
Oui, c'est ce dont vous avez bénéficié d'ailleurs en 2012 avec cette fameuse vague rose. Mais donc c'est ça l'avenir politique, c'est de passer de vague en vague comme ça, en fonction du président qui sera élu à la tête de l'État.
Nous on a l'impression de cette expérience des 10 mois de campagne, parce qu'il y a quand même eu énormément d'élections, et notamment j'inclus les débats des primaires, que les vagues sont de plus en plus fortes et de plus en plus nationales, et que au fond la politique va devenir de plus en plus une étiquette plutôt que des personnalités qui l'emportent sur leurs actions propres. On a eu cette impression-là depuis plusieurs mois, on va dire même depuis plusieurs années. Peut-être que l'avenir nous donnera tort. Ce qui est certain, c'est que c'est inscrit dans les gènes de la Ve République format quinquennat. C'est qu'on va de plus en plus vers moi, ce que j'appelle une logique bonapartiste, c'est-à-dire un homme ou une femme, j'espère un jour, qui serait sauveur de tout, en tout cas pendant quelques mois. C'est regrettable pour le mécanisme démocratique, mais en revanche, c'est assez logique dans les mécanismes institutionnels.
10 mois de campagne, c'est même 12 mois, puisque la campagne des primaires avait déjà démarré l'an dernier. 12 mois de campagne, est-ce que là, c'est pas un peu trop aussi pour les électeurs ? Si bien qu'on en vient aujourd'hui à plus de 50% d'abstentionnisme au second tour des législatives.
Écoutez,
faut pas revenir sur cette logique des primaires aujourd'hui.
Moi, je suis très attachée aux primaires parce que je pense que ce que démontre cette élection, c'est qu'elle se fait désormais sur des individus, des leaders absolus. Je suis encore plus favorable à changer les institutions. C'est-à-dire, je pense que la désignation d'un président de la République qui serait solution de tous nos maux, y compris les plus personnels, est un fantasme collectif. Mais tant qu'on est là-dedans, si on n'est pas capable de se mettre d'accord sur le chef, on n'est plus capable de gagner des élections. Et donc c'est ça la vraie difficulté. Emmanuel Macron n'est pas passé par une primaire parce qu'il considérait, et il a eu raison de toute évidence, qu'il incarnait le chef à lui tout seul. Mais dans un système démocratique, il faut que le chef soit désigné de manière démocratique. Et ça sera peut-être la dernière solution si on veut rester absolument dans cette logique institutionnelle de la 5e.
Oui, parce que ce que vous décrivez est presque dramatique d'un point de vue politique, dans l'idée de se dire que ce sont ces vagues permanentes qui vont faire les élections au fur et à mesure. Ça veut dire que la candidate que vous avez été, les candidats qui arriveront demain ne seront plus entendus sur leurs projets, sur leur personnalité, sur leurs idées propres, sur un propre territoire.
En tout cas moins. Alors, je dis pas que ça sera
le simple fait d'être porte-drapeau suffira, quoi.
Les équilibres entre ce que représente son étiquette politique et ce que représente la personnalité du candidat seront, à mon avis, de plus en plus en faveur de l'étiquette politique. Oui. Mm-hmm. Mais ça, je l'ai pensé depuis de nombreux mois et je l'avais exprimé avec beaucoup d'ailleurs beaucoup de gens étaient dubitatifs sur ça. Je crains quand même que là, la démonstration soit faite sur cette élection-là de manière assez claire.
Ce bipartisme entre gauche et droite qui, selon toujours Pierre-Bernard Raymond, est mort aujourd'hui, ça sera quoi selon vous les conséquences ? Plus de gauche, plus de droite, mais espèce de grand centre ?
Ah non, je pense, je ne crois pas du tout à...
Ça n'est pas appelé à durer ?
Ah non, je ne crois pas du tout que ce soit appelé à durer. Je pense qu'on est en face d'un système, au fond, beaucoup plus risqué, où c'est pas le ni droite ni gauche, c'est le tous dehors. Qui a gagné.
C'est le dégagisme dont on a entendu parler.
Et c'est pas ni droite ni gauche. Si quelqu'un très très à gauche ou très très à droite avait su incarner ce tous dehors, plus qu'Emmanuel Macron, il ou elle aurait gagné. Donc ce qu'on a vécu au cours de cette élection, c'est quelque chose de bien pire. C'est que par opportunisme, d'un moment de grand rejet, on va dire, des systèmes politiques traditionnels, on peut avoir des aventures personnelles qui finissent par une majorité totale.
Vous tirez quel mandat des premières semaines d'Emmanuel Macron ?
C'est extrêmement difficile à ce stade. L'Assemblée nationale vient juste d'être mise en place. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de clarifications qui se font sur sa couleur politique. Je trouve que tout ce qui apparaît depuis un mois et demi est de droite, au sens sans aucun. C'est une critique politique de ma part. Je respecte les gens qui ont des idées droites, mais quand on regarde ce qu'ils proposent sur le travail, quand on regarde ce qu'ils proposent sur les finances publiques, quand on regarde ce qu'ils proposent sur l'école, quand on regarde ce qu'il propose, y compris sur les questions internationales, puisqu'il a complètement viré de bord et maintenant explique que, grosso modo, il faut s'entendre avec Bachar al-Assad et Vladimir Poutine. Quand on met tout ça sur la table, on s'aperçoit que c'est ni plus ni moins que la ligne qui était défendue par la droite pendant toutes ces élections. Donc ça sera un gouvernement de droite. Édouard Philippe est un premier ministre de droite. Le ministre de l'économie est un homme de droite. Ça sera des options de droite. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que la droite parlementaire a déjà cassé en deux sur le soutien ou pas au gouvernement.
Donc Joël Giraud, Christophe Castaner sont devenus des personnes de droite aujourd'hui.
En tout cas, à partir du moment
pour parler des plus symboliques, en tout cas dans les Alpes du Sud,
enfin de chez nous, à partir du moment où non seulement ils s'inscrivent dans le parti, mais surtout ils votent ce qui va être proposé, Je rappelle quand même, hein, fin d'une forme de CDI très rapidement, réduction massive des dépenses publiques, gel du point d'indice pour les fonctionnaires, retour de l'école à 4 jours pour qui veut, y compris quand c'est au détriment des enfants des quartiers défavorisés, politique internationale, et je parle même pas des premières tentatives pour revenir sur certaines mesures écologiques comme on a failli assister à la fin l'interdiction des néonicotinoïdes. Bref. Christophe Castaner, Joël Giraud, en votant tout ça, vont s'inscrire totalement dans une ligne de droite.
Vous souhaitez tout de même qu'il réussisse ce quinquennat, Emmanuel
Macron ? Moi, ce que je souhaite, c'est que la France réussisse. Ouais. Or, je pense que les options politiques qui sont prises aujourd'hui ne permettront pas à mon pays de réussir. Et bon. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec cette ligne politique.
On en tirera les conséquences et les conclusions à travers ce que vous nous dites dans quelques années. En attendant, on va marquer une courte pause sur Alpe 1 et se retrouver dans un instant avec notre invitée ce soir, Karine Berger, ex-députée PS des Hautes-Alpes, mais toujours conseillère municipale d'opposition à Gap.
Au bout de l'actu, Alpe 1, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Avec l'invité d'Au bout de l'actu, ce soir, Karine Berger, ex-députée PS des Hautes-Alpes et conseillère municipale d'opposition de Gap, Cyrielle.
J'aimerais vous faire réagir sur cette déclaration d'aujourd'hui. Elle est d'Eduardo Riancipel, qui a été battu aux élections, donc ancien député PS battu aux législatives. Il dresse un bilan très sévère de l'effondrement du bloc socialiste aujourd'hui. Il explique qu'on peut assister à l'extinction de l'espèce socialiste. Le PS a été victime de sa paresse intellectuelle.
Que le PS est une grande responsabilité dans ce qui est en train d'arriver, dans ce qui s'est passé, c'est une évidence. Maintenant, je pense que les socialistes représentent beaucoup plus qu'une déclaration à l'emporte-pièce de Eduardo Riancipel, et que les valeurs socialistes, les valeurs et les combats socialistes, eux, sont bel et bien toujours d'actualité. Et même si le parti et probablement la manière de gouverner depuis 5 ans ont été entachés d'erreurs, cela ne signifie absolument pas que, on va dire, les convictions socialistes et la ligne socialiste soient touchées.
Et aujourd'hui, ils sont où, ces combats socialistes ? Benoît Hamon est en train aussi de prendre une sorte de retrait, une distance par rapport au Parti Socialiste. Il va lancer son mouvement transpartisan que, pour l'instant, il veut baptiser mouvement du 1er juillet. Aujourd'hui, c'est où ?
J'ai beaucoup de sympathie pour Benoît Hamon, mais je vous avoue que quelqu'un qui a été notre candidat et qui a fini à 6%, qui est le score le plus bas historique jamais atteint, se permettre comme première action politique de l'été qui suit d'expliquer que c'est la faute du Parti Socialiste s'il a perdu, c'est un peu compliqué.
Je vous pose pas la question de Manuel Valls alors.
Manuel Valls, je crois, a pris enfin la décision qui s'imposait dans la tête de beaucoup de gens depuis très longtemps, c'est-à-dire acter le fait qu'il n'était plus socialiste.
Mais simplement, ces combats socialistes aujourd'hui, comment les faire renaître dans un huis clos socialiste ?
Avec la nouvelle gauche ? C'est le groupe qui a été créé à l'Assemblée nationale. On parle plus de socialisme, mais de nouvelle gauche.
D'abord, je suis très étonnée d'entendre le terme huis clos. Parce que s'il y a bien un truc que les partis politiques ne sont pas, c'est des huis clos. Pendant 5 ans, j'ai été députée. Je crois qu'une journée de ma vie où je n'ai pas essayé de répondre aux demandes journalistiques, ce qui est quand même une façon de faire sauter le huis clos de manière assez efficace. Et puis, de manière générale, parler à tous les gens qui souhaitaient. Donc, il n'y a pas de huis clos en politique. Il y a la question de savoir quelles sont nos valeurs, quels sont nos combats, quelles sont nos priorités. Et cette carte d'identité-là, il faut évidemment qu'on la réécrive. Et c'est pour ça que Jean-Christophe Cambadélis, patron du PS, a décidé de se mettre en retrait et proposer à la nouvelle génération de prendre les rênes et de
reprendre. Il a bien fait, au passage, Christophe Cambadélis.
Je crois qu'il a...
Il n'avait pas le choix, quelque part.
Il a pris une décision qui permet justement d'éviter de se demander, au fond, est-ce que ce n'est pas ceux qui sont responsables de la défaite qui restent aux manettes, etc. Chose qu'on entendrait non-stop. Et puis aussi, il y a une nouvelle génération qui est prête à inventer la suite. Et je crois que c'est assez remarquable de la part de Jean-Christophe Cambadélis d'en tirer tout de suite les conclusions.
Vous voulez en être pour réécrire ce nouveau chapitre du socialisme ?
Alors, je ne vais pas vous mentir, j'y serai pas avant octobre, oui. Mais pour des raisons personnelles. Voilà. Mais j'y serai bien évidemment et avec enthousiasme. Et, vous savez, je dis souvent, et c'est vrai, j'ai une carte dans des associations, des partis politiques de gauche, militantes, depuis que j'ai 14 ans. Donc, c'est une évidence. On a ça en soi ou on l'a pas. Sauf que moi, je l'ai. Je considère que la solidarité, les combats pour l'égalité, les combats pour l'émancipation individuelle sont des choses qui ne cesseront jamais, dont notre société a besoin, ici en France, dans le monde entier, pour l'avenir, pour maintenant. Et voilà, et je continuerai et je le ferai au sein du parti. Parti Socialiste, parce que c'est mon parti, et parce qu'il y a des tas de gens formidables qui, aujourd'hui, ont des choses à dire et à faire.
Il y a des gens formidables, mais tout à l'heure, vous le disiez, si on n'est pas capable de se mettre en accord sur le chef, demain, ça sera qui? Ça devrait être qui, cette figure de proue du PS?
Ouais, alors, beaucoup, beaucoup trop tôt pour envisager cette question-là. Je crois qu'il faut, pour le coup, cette fois-ci, vraiment ne pas inverser le calendrier.
Alors, un profil type, en tout cas, ce qui est à souhaiter pour le parti?
Ah, je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui, comment dire, qui soit issu vraiment des mouvements sociaux de la société. Je pense que s'il y a bien une erreur qui a été commise par notre parti, c'est d'essayer de s'accrocher à une figure, on va dire, de gouvernement. C'est tout le débat qu'on a eu avec Manuel Valls pendant 3 ans. Cette idée qu'il fallait que le Parti Socialiste définisse son chef comme étant capable de gouverner. Je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense qu'un parti politique doit être, doit, au travers de la personnalité de son chef ou de sa chef, doit refléter justement ses convictions. Oui. Et nos convictions, ce sont des convictions sociales.
Est-ce que pour réinventer le Parti Socialiste, il faudra couper les têtes de ceux qui ont appelé à voter Emmanuel Macron au sein du PS?
C'est déjà fait. Hein. En fait, c'est déjà fait. C'est une décision assez douloureuse à prendre, mais qui en fait est inscrite dans les statuts du parti.
Parfois radical, dénoncé comme radical en tout cas par certains.
Enfin, il se trouve que c'est dans les statuts du parti, donc ouais. Il faudrait que certains aient lu les statuts avant d'adhérer. Donc il est très clair, il est écrit dans les statuts du parti que dès qu'on est candidat, dès qu'on soutient un candidat qui n'est pas celui de notre parti, on se met de soi-même en dehors du parti.
Donc quand Amine El-Khatmi, pardonnez-moi, qui est adjoint au maire socialiste d'Avignon et qui se plaint d'avoir reçu un SMS de votre part aussi chaleureux qu'un procès-verbal de police, et là je cite, et qu'il a appris son exclusion par ce même SMS, vous le renvoyez à ses statuts en disant...
Non, même pas, parce qu'il se trouve que dans le cadre d'Amine El-Khatmi, le SMS en question n'a rien à voir avec ce qu'il écrit, mais je ne souhaite pas le rendre public, puisque lui n'a pas souhaité le rendre public. C'est quelqu'un d'autre qui est du courant, qui a fait savoir à Amine El-Khatmi qu'il n'était plus membre de notre courant.
Oui, parlons
des sujets qui concernent GAP, votre fonction de conseillère municipale d'opposition. Aujourd'hui, on entend beaucoup ce mot revenir, rapport sur les risques psychosociaux. On l'a entendu pour la polyclinique, ouais. Ce qui est un autre rapport avec la ville de GAP.
Oui, mais qui est très important.
Qui est très important aujourd'hui. On l'a quand même aussi entendu pour les agents municipaux. Aujourd'hui, c'est quoi? On assiste à une multiplication des rapports psychosociaux parce qu'il faut le faire sur ces risques ou c'est nécessaire?
Non, parce que les gens sont usés. Parce que les salariés sont usés. Il se trouve que pendant la campagne, même si je n'ai absolument pas voulu le politiser, j'ai eu des échanges avec certains salariés de la clinique et qu'on est en face de méthodes de management qui usent les gens. Et d'ailleurs, la démission parallèle du président et de la directrice de la polyclinique témoigne bien du fait qu'il y avait un vrai problème de management au sens le plus classique du terme. Donc, et probablement que sur la mairie de Gap, même si je reconnais que l'accord a été trouvé a posteriori, c'était le même sujet, c'est-à-dire le respect de l'équilibre. Les salariés d'une communauté, d'une collectivité, d'un hôpital ne sont pas des pions. Les salariés sont des gens qui ont des vies personnelles, des vies professionnelles, des vies humaines. Et tout cet équilibre, qui est le principe même de notre équilibre social, ne peut pas être piétiné pour une histoire de bénéfices, de bidules, de machin. Donc voilà, on est en face d'un moment où dans notre société, l'individualisation, l'atomisation des gens pèse de plus en plus sur la psychologie. A raison, et qu'il faut stopper ça, et que c'est ça un mouvement social.
Oui, mais c'est le serpent qui se mord la queue, parce que on en avait déjà parlé de ces mouvements au sein des agents municipaux il y a quelques années en arrière, on en a encore reparlé cette année, on en reparlera peut-être encore l'année prochaine ou dans 2 ans.
Et je vais même vous dire que maintenant qu'un premier équilibre a été, en tout cas un premier accord a été trouvé, la population de Gap n'était pas vraiment solidaire du mouvement des agents municipaux. On l'a vu, nous, très très bien sur le terrain. Nous, on l'a, enfin, en tout cas, mon groupe d'opposition municipale a soutenu leur mouvement et a soutenu le fait de trouver un accord. Mais on a vu dans les rues de Gap que les gens n'étaient pas solidaires de ce mouvement.
Pourquoi? Vous l'expliquez par quoi?
Parce que nos concitoyens ont parfois tendance à oublier qu'un service public, c'est d'abord un service rendu au public par des gens. Et que on n'est pas sur Facebook, on n'est pas en train de dire I like, I don't like, on n'est pas sur tout est gratuit, tout est donné à tout le monde. Il y a des gens qui font des actions derrière et qui ont un travail.
Mais
je crois que ce message-là, qui est de dire qu'un service public, c'est d'abord et avant tout des gens qui travaillent, nous devons le reprendre de manière beaucoup plus forte parce que c'est en train de passer sous les radars de beaucoup, beaucoup de personnes.
Est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'il y a un écart de traitement entre privé et public que le privé n'accepte plus aujourd'hui, à tort ou à raison, et qu'il le dénonce à travers ce manque de soutien, en se disant, après tout, il n'y a pas de raison qu'on les soutienne plus que ce que nous, on ne nous soutient pas au
quotidien. Si vous aviez raison, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de grève à la polyclinique de Gap.
Il y a une autre problématique, ou est-ce qu'il y aurait une autre problématique au sein de la politique vieillesse de Gap ? On sait qu'il va y avoir une réunion du CCAS, ça a été pointé du doigt notamment par Christophe Pirel, la gestion au sein des maisons de retraite,
oui.
pas assez d'employés.
Alors, de manière générale, le tissu d'accompagnement social sur les Hautes-Alpes a des trous dans la raquette, si vous me permettez l'expression. Donc, on a la problématique, effectivement, des maisons de retraite. Moi, j'insisterai d'ailleurs plus sur les prix des maisons de retraite que forcément sur les conditions, même si j'ai conscience qu'il y a des situations difficiles pour les salariés de certaines maisons de retraite. Mais un autre exemple qui est un vrai drame, c'est la situation des personnes adultes handicapées dans le département, où là, on n'a plus rien, on n'a plus de solution. Enfin, c'est un vide terrible. Et je pourrais donner une liste encore plus importante. J'ai essayé pendant 5 ans de débloquer des lits, de créer des opportunités. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement coûteux. Et soyons clairs, si on va vers des restrictions budgétaires nationales, c'est typiquement le genre de choses qui n'auront jamais lieu.
Conseillère municipale d'opposition, jusqu'à la fin du mandat, vous vous engagez à quoi auprès des citoyens ? D'être peut-être un peu plus présent et ne pas oublier la ville de Gap, tout en essayant de reconstruire le PS à Paris ?
Ah bah, déjà, reconstruire le PS dans les Hautes-Alpes, avant de le reconstruire à Paris. Bien sûr, non, mais moi, j'ai rempli mon mandat de conseillère municipale en étant, je crois, assez active sur les questions gapensaises. On m'a d'ailleurs reproché dans le reste de la circonscription de m'occuper trop de Gap. Vous savez, c'est toujours compliqué. On ne sait jamais si on doit finalement, il faut abandonner Pierre pour s'occuper de Paul, que sais-je.
La question, c'est que vous n'allez pas démissionner.
Ah, mais bien sûr que non. J'ai pas l'intention de démissionner. Ouais. On est saisi. D'abord, on est plusieurs à siéger. On est saisi chaque semaine par des gens et on essaye de faire progresser les dossiers. Et j'ajouterai que, à ma grande surprise, alors c'est peut-être le contexte des élections qu'il faisait, on a eu plusieurs demandes qui ont été écoutées et entendues par Monsieur le Maire depuis un mois et demi, 2 mois, et qu'il a pris en compte, y compris des choses qui, à mes yeux, étaient peut-être des choses pas forcément évidentes pour lui à faire, et qu'il a faites sur notre demande. Donc ça sert aussi.
Voilà. Le PLU de Gap, l'enquête publique, c'est ouverte.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce PLU ? Le maire veut arriver à un certain équilibre. Pour vous, il n'est pas respecté ?
Très difficile de mobiliser notre population sur le PLU. On a tout essayé. On a mis les PLU à disposition dans 2 endroits différents à Gap.
On constate aussi que ça ne déchaîne pas les foules dans un intérêt d'information.
Si
on peut faire un aveu journalistique aussi.
Plus rapide que moi, moi je ne sais plus comment faire. Je supplie mes concitoyens d'aller voir le PLU, les PLU, qu'ils soient propriétaires, pas propriétaires. C'est leur quartier, c'est leur vie de demain, c'est les 15 prochaines années, 20 prochaines années sur Gap. Allez voir, intéressez-vous. Je ne sais plus comment faire. On sait que, de toute façon, s'il y a des modifications à faire, ça sera sur plan, c'est-à-dire quartier par quartier. On a réussi à mobiliser quelques associations de quartier, mais enfin, globalement, je suis simplement réduite à dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, prenez 1 heure de votre temps dans les 15 prochains jours et allez voir ce qui concerne votre quartier dans le plan du PLU.
Et dans un premier temps, pour vous aider à vous mettre le pied à l'étrier, vous retrouvez toutes les infos synthétisées sur lealpe1.com, ça peut vous aider pour aller un peu plus loin. Quelques questions politiques avant de se quitter, oui. Karine Berger. Vous le disiez, il faudra réinventer le Parti Socialiste aussi dans les Hautes-Alpes, parce qu'effectivement la fédération a fondu comme peau de chagrin.
Mais pas tant que ça. Ouais. Je vous assure que je suis la première surprise d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au niveau national, la situation est très délicate. Le Parti Socialiste Hautalpin est une petite fédération. Elle a toujours été une petite fédération, mais notre small is beautiful, vous voyez. Et donc, le fait qu'on est petit fait qu'on a eu très, 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 très peu
de défections
ouais. ou de départs.
Est-ce qu'il faudra réorganiser le bureau ? Est-ce qu'il faudra une nouvelle secrétaire départementale ?
Alors, c'est acté. De toute façon, Christine Nivou, pour des tas de raisons personnelles, m'avait dit qu'elle, évidemment, elle tenait la maison, si vous me permettez l'expression, jusqu'à l'été, et qu'elle verrez à l'automne si les choses sont, si le congrès a lieu dès l'automne ou s'il faut attendre. Comment on se dessine pour un congrès plutôt au printemps, on va en discuter. On a une réunion lundi pour commencer à discuter avec tous les militants de tout ça. Moi, je salue la nouvelle génération qui arrive. On a un jeune qui vient de prendre les MJS, Eddie, qui a fait une campagne extraordinaire. Pourtant, c'est pas sa ligne politique, hein. Il a fait une campagne extraordinaire et pour la présidentielle et pour la législative. On a vu dans la campagne des législatives une jeune génération qui a, on va dire, entre 20 ans et 30 ans, ils savent faire une campagne maintenant, je peux vous assurer. Ils sont là et voilà. Donc je ne suis pas très inquiète. Voilà. Je ne suis pas très inquiète pour la Fédération des Hautes-Alpes parce que, à ma grande surprise,
vous souhaiteriez apporter la Fédération des Hautes-Alpes?
Ce n'est pas exclu pour moi, voilà. Ça fait partie des choses qui, si ça peut être utile et s'il y a un consensus là-dessus, je le ferai avec très grand plaisir dès que j'aurai un peu de temps personnel.
Politiquement, vous ne sentez pas anéanti ni inquiète, presque fataliste par rapport à ce qui vient de se passer en disant que tout ça, ça va passer, que la roue tourne?
Parce que je voudrais dire simplement à tous ceux qui nous écoutent que même si on est des responsables politiques, des politiciens, on est aussi des êtres humains et qu'à un moment, il faut qu'on se pose un peu. Oui. C'est pour ça qu'on devient un peu fataliste.
Donc l'esprit du lâcher-prise, voilà. est bien ancré en vous. Tout de même, une question, est-ce que la mairie de Gap, du coup, peut être un objectif politique à moyen terme du fait que les législatives n'ont pas été un succès pour vous?
Écoutez, là, vraiment, moi, je ne peux pas, après, ça fait même pas 15 jours que je ne suis plus députée.
Vous connaissez l'impatience des journalistes?
Oui, je sais, mais donc je ne veux absolument pas discuter de futures candidatures me concernant.
Pour y dire simplement non, la mairie de m'intéresse pas.
Je dirais simplement, puisque vous me posez la question, je trouve que ce que fait Christophe Pirel en termes de mobilisation sur la question de Gap est remarquable et que toutes ces questions-là devront être discutées en temps et en heure et que l'objectif, il est très simple, c'est de permettre à Gap d'avoir une équipe en 2020 qui apporte une politique sociale et de développement de la ville. On le fera avec tous ceux qui veulent et avec les meilleurs de notre fédération.
Bon, et bien c'est déjà un début de réponse. Merci Karine Berger d'avoir été à nos côtés. Merci d'avoir été d'ailleurs au passage la dernière invitée de cette saison 2017. Effectivement, bel été à tout le monde. 2017.
Est-ce que je peux juste ajouter, venez tous au Festival Messiaen fin juillet. C'est pas simplement parce que je suis présidente, mais parce que le programme est fantastique. Et donc ça a lieu à La Grave. Je sais que c'est toujours un peu compliqué dans notre département d'aller à La Grave, mais le programme est extraordinaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas la musique classique contemporaine, c'est que du bonheur.
Voilà pour cette petite auto-promo de la présidente du festival. Merci donc Karine Berger d'avoir été notre invitée et d'avoir donc conclu cette saison 2016-2017 d'au bout de l'actu.
Oui, vous n'êtes pas trompé d'année.
Oui, j'étais en train de réfléchir si je me trompais pas d'année, mais non. On va vous souhaiter une belle soirée pour ceux qui nous quittent là. Pour ceux qui restent avec nous, le récap de l'info, ça sera dans quelques instants à 19h sur Alpe 1. À tout de suite.